Bonsoir. États généraux sur la télécommunication, controverse entre le gouvernement et les opérateurs privés de téléphonie cellulaire. Le ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications reproche à ces opérateurs privés de ne pas répondre aux attentes de l'État congolais. Faux, rétorque les opérateurs privés de télécommunications. Qu'est-ce qui divise réellement les deux parties? Comment y remédier? Du côté des auditeurs, Cyril Mabingo de Goma, je trouve que le gouvernement a affiché une certaine irresponsabilité lors de l'implantation de ses opérateurs de téléphonie cellulaire avant d'afficher une certaine faiblesse à leur égard, maintenant qui se considère comme maître du terrain dans ce domaine. Fin de citation. Modeste Mali Nyota de Beni au Nord Kivu souhaite qu'on laisse les opérateurs de téléphonie cellulaire tranquilles, car c'est aussi grâce à eux que le pays s'est un peu développé. À Kinshasa, pendant ce temps, Sony Tetou, un autre auditeur, se demande s'il y a une politique de télécommunication en République démocratique du Congo. Pour répondre à vos préoccupations, nous recevons ce soir Janon Bimola. Il est directeur de cabinet adjoint du ministre des Postes, Téléphones et Télécommunications. Nous avons Bob Toumba, il est chairman, responsable donc de la société Tigo. Il est aussi président des opérateurs privés de téléphonie cellulaire à la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons aussi Laurent Toumba, responsable de la société Microcom, un des fournisseurs d'Internet. Bienvenue à tous dans cette émission.
Si vous voulez participer à l'émission, envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Le gouvernement et les opérateurs privés de téléphonie cellulaire ne s'accordent pas sur l'enveloppe des contributions des opérateurs privés de la téléphonie cellulaire. D'après le ministre de Postes, Téléphones et Télécommunications, les opérateurs de télécommunications ne semblent pas répondre aux attentes de l'État en termes de recettes. Il a dit mardi 7 août dernier, c'était à l'inauguration des États généraux des télécommunications au centre Theresianum de Kintambo, ici à Kinshasa. Pendant 4 jours, la centaine de participants congolais et étrangers devraient réfléchir sur la réglementation, l'homologation des anciens équipements et le contrôle technique en déterminant l'alignement des fréquences de télécommunications en RDC. Le ministre des PTT a invité les opérateurs de télécommunications à se mettre en règle dans un délai d'un mois. Le ministre Cyprien Kiamoussoké.
Considéré actuellement par le monde comme un secteur porteur de croissance et source de revenus pour l'État, le PTT en République démocratique du Congo ne semble pas répondre en termes de recettes aux attentes du gouvernement.
Plusieurs opérateurs parmi eux devront de d'autres services non autorisés par les cahiers de charges. D'autres encore, profitant de l'absence de la réglementation dans certains domaines, se sont mis à développer de nouveaux services telle que téléphonie IP. J'invite donc les premiers cités à régulariser dans les meilleurs délais leur situation en obtenant les titres requis et en s'acquittant de tous les droits relatifs à cette exploitation irrégulière. Il dispose pour ce faire d'un délai de grâce d'un mois.
Le discours du ministre a été mal reçu par les opérateurs de télécommunications. Pour eux, ils contribuent beaucoup aux recettes de l'État congolais. Celui-ci devrait plutôt encourager les investisseurs au lieu de les décourager. On écoute John Aloukou, il est conseiller juridique de Celtel Congo.
Nous nous sommes retirés parce qu'il n'y avait pas harmonisation des points de vue entre l'administration et les opérateurs privés quant au contenu des états généraux.
Vous avez suspendu momentanément.
Mais ça dépend. Si jamais l'administration revoit le contenu des états généraux, nous reviendrons volontiers parce que nous sommes là pour travailler dans l'intérêt et de l'industrie de télécommunications et de nos consommateurs, que ce soit nos abonnés. Nous revendiquons un cadre institutionnel rasséréné. C'est une équipe de lois claires, des lois sans ambiguïté, sans contradiction. On a reçu un discours menaçant, on a reçu un coup de bâton, alors que le tiers des recettes de l'État provient de télécommunications. Donc, tirez vous-même la conclusion. Hein. Pendant que nous sommes la vache à lait, on nous remercie en nous méconnaissant nos qualités d'apporteurs de bien-être dans l'économie nationale.
C'est un dossier signé Jeff Roy. Nous avons dans ce studio, nous l'avons dit, M. Janon Bimola, directeur de cabinet adjoint du ministre des PTT. Sur quoi se base le ministre des PTT pour s'en prendre, si on peut le dire ainsi, aux opérateurs privés de télécommunications?
Je vous remercie pour l'occasion que vous donnez de pouvoir éclaircir le propos de son excellence le ministre des PTT. Je pense que quand vous dites que je ne connais peut-être pas le terme que vous avez employé, et que les opérateurs privés ne sont pas reconnus dans leur droit d'apporter un plus à l'économie congolaise, je pense que ce n'était pas dans les propos du ministre, ni de les minimiser non plus. On reconnaît exactement l'apport de ce secteur dans notre économie nationale, mais simplement nous pouvons dire que les attentes ne sont pas là. J'ai entendu dans les documents que vous avez fait passer, comme quoi il contribue à hauteur de 30%, mais là on parle en termes de pourcentage. Mais qu'est-ce que cela représente-t-il en termes de valeur nette? On peut parler de même de 50%, 60%, même 90%, mais sur quelle assiette? Vous savez, le mécanisme de perception de recettes commence d'abord par la constatation. On constate, et puis après vient la liquidation. Et ça, c'est le ministère de PTT qui a la responsabilité de faire ces deux étapes-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire ces étapes. Voilà. Peut-être qu'il y avait à un certain moment un manque de moyens de faire, un manque de moyens techniques, mais la loi nous réserve les prérogatives d'aller voir les équipements et de faire des requêtes sur les serveurs pour constater nous-mêmes quelle a été l'importance du trafic. Et c'est à base de cette constatation-là, que nous pourrons justement dresser des notes qui iront vers la DGRAD, qui, dans ses responsabilités, fera le recouvrement. Donc, cette étape n'est pas accomplie. Quand on parle de 30%, ça ne veut rien dire. Ça peut être 30% de quoi? De 45 000 minutes par mois?
Voilà, Bob Toumba, chairman de Tigo, mais vous êtes surtout ici en tant que président des opérateurs privés de la télécommunication à la SEC. Vous avez suivi Janon Bimola, qui vous dit que c'est vrai, 30%, mais par rapport à l'assiette, c'est pas grand-chose.
Mais qu'est-ce qui constitue l'assiette des recettes de l'État? L'État a plusieurs opérateurs qui sont catégorisés selon leurs activités. Il y a les mines dans ce pays, il y a l'énergie, il y a les transports routiers, fluviales, maritimes, aériens, il y a les télécoms. Et si nous apportons à nous seuls 30% des recettes de l'État, si on veut les minimiser, c'est une façon de corriger les propos erronés du ministre. Vous voulez que nous apportions 110% des recettes de l'État? Pourquoi vous croyez en nous? 30%, c'est un chiffre relatif, mais justement, il montre le poids de l'industrie du télécom au pays. Ça signifie que nous sommes la pompe financière majeure. Nous sommes, pour qu'on appelle en termes vulgaires, la vache à lait de l'État. Alors, il est tout à fait incohérent de dire que la vache à lait n'apporte rien. Si on dit que 30% c'est rien, qu'est-ce qui devient quelque chose? C'est ça la question que qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il faut amener pour être considéré? Si en amenant 30%, on n'a rien amené. Alors qu'il y a le secteur des mines à côté, il y a le secteur de l'énergie, il y a toutes les activités. À nous seuls, qui sommes les derniers-nés des activités économiques au pays, nous amenons sur 100 dollars, nous en amenons 30 depuis 2005. Chiffre à l'appui.
Voilà. Laurent Toumba, vous êtes responsable de la société Microcom, donc un des fournisseurs d'Internet. Est-ce que vous appuyez Bob Toumba? Vous êtes du même avis que, bien que 30%, comme le dit le gouvernement, c'est grand-chose?
Bon, je vous remercie pour cette occasion. Mais loin de moi l'idée d'entrer dans un débat de chiffres, ni d'un quelconque débat entre les fournisseurs de services GSM et le gouvernement. Je voudrais ici axer mon intervention sur le fait que la dissension est venue parce que on a convoqué les états généraux sur les télécommunications. Et de mon point de vue, je pense que c'est les lieux indiqués pour en découdre. Chacun donnant ses avis, ses points de vue, parce que je pense que c'est un cadre tout à fait libre et que les personnes qui ont été invitées à cette rencontre l'ont été à cause de leur capacité à cause de leur qualité d'expert, je suppose, de manière à débattre d'une manière générale d'un problème national et de trouver des solutions tout autant bénéfiques pour le gouvernement et bénéfiques pour les consommateurs que nous sommes.
Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a raison de dire que les opérateurs privés de téléphonie cellulaire ne répondent pas aux attentes de l'État?
Ben, je ne voudrais pas ici juger les uns et les autres, parce que n'ayant pas les éléments de base sur lesquels les jugements ont été portés, je pense que...
Par rapport aux contributions, est-ce que vous, à moins que vous donniez ce qu'il faut à l'État?
Ben, nous donnons ce que nous pouvons donner à l'État, mais quant à discuter aujourd'hui sur le CIP, et je pense que nous n'avons pas ici, dans ce cadre, les moyens, les outils nécessaires pour expliquer à tout le monde que tel n'a pas payé autant. Je pense que si le gouvernement a des choses à reprocher et que les opérateurs GSM ont des choses à reprocher au gouvernement, qu'ils se mettent sur la table, que chacun pose ses problèmes et qu'on trouve des solutions. Je pense que c'est la seule voie et l'unique d'ailleurs qui permettrait d'harmoniser. Si le président Bob dit qu'ils apportent déjà 30%, c'est déjà, nous les félicitons, parce qu'il y a 5 ans, je crois qu'il n'y avait rien de tout ça. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller à la table des négociations et arriver à un compromis.
Allez, je vais revenir à vous, Bob Toumba. D'abord, une autre question à M. Jeannot Bimola, directeur de cabinet adjoint du ministre du PTT. Que doivent payer réellement les opérateurs privés de télécommunications à l'État? Parce que le ministre dit que ce n'est pas assez. Mais c'est combien que ces opérateurs doivent payer exactement à l'État?
Vous savez, il y a quelques années, on se contenterait de ces 30%, on dirait « ok, bravo, vraiment c'était inespéré ». Mais aujourd'hui, on dit « bravo, mais on peut encore faire mieux ». Alors, je ne sais pas si ça rapproche, comme l'a dit tout à l'heure notre ami de Microcom, nous avons eu à tracer un cadre au sein duquel ces débats devaient avoir lieu. Donc en fait, on ne devait même pas mettre cette histoire, ces débats sur la place publique. C'était entre nous, on voit, on règle le problème, en écoutant les uns les autres et en cherchant comment est-ce que les opérateurs, les investisseurs qui viennent dans notre pays peuvent rentabiliser leurs apports et comment est-ce que le peuple congolais, propriétaire de ces ressources qui sont exploitées sur son sol, peut se retrouver également. Donc c'était ça le but. Aujourd'hui, nous avons eu plusieurs raisons pour que les gens désertent justement ces états généraux. Et les discours ont varié, hein, je ne sais pas si vous remarquez, les discours ont varié. Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que voilà, l'apport a été minimisé, on se focalise là-dessus. Mais ça n'a pas été la raison primaire du départ sur la table de négociation de nos amis partenaires privés. Voilà, partenaires privés. Vous voyez, ça a été d'abord un discours froid de la part du ministre, et après, ça a été qu'ils n'ont pas été consultés pour la mise en place de la matière à traiter dans les états généraux. Et puis après, ça a été la non-harmonisation de points de vue. Et aujourd'hui, nous en sommes à ce quatrième point.
Mais c'est combien qu'ils doivent payer exactement?
Ce qu'ils doivent payer, il va falloir que nous puissions leur dire comment nous voulons déterminer ce qu'ils doivent payer. Mais ceux qui sont aux yeux déjà, ils le savent, puisqu'ils ont des cahiers de charges qui leur ont été soumis par l'État. Lorsqu'ils ont pris des engagements, lorsque l'État leur a délivré leur licence. Et ces licences sont bien claires sur ce qu'ils doivent faire, ce qui sont leurs droits d'exploitation, et également ce qu'ils doivent rendre à l'État. Je vais donner un exemple simple. Dans leur licence, on leur demande une obligation d'accomplir ce qu'on appelle le service universel.
C'est-à-dire
que nous voulons rendre accessible la télécommunication aux gens qui sont dans les coins les plus reculés, aux gens les plus démunis, dont il y a un service minimum auquel les opérateurs se sont engagés pour pouvoir rendre à ces gens-là, notamment, par exemple, l'installation des publicones dans ces coins-là. Vous voyez?
Donc, des cabines publiques.
Voilà, l'installation des cabines publiques. Et aussi, ce qui est très important pour notre peuple congolais, c'est d'avoir à sa disposition un numéro d'appel d'urgence gratuit.
ce qui permet à nos gens, quel que ce soit là où ils se trouvent, lorsqu'ils sont agressés, de pouvoir appeler gratuitement la police. Toute personne qui dispose d'un poste téléphonique et doit avoir cette capacité-là de composer un numéro pour demander de l'aide, pour demander de secours. Et ça, ce sont les engagements qu'ont pris nos opérateurs privés. Et aujourd'hui, je me pose la question, je pense que s'ils sont conscients, sincères, ils peuvent nous dire s'ils remplissent déjà ces engagements-là pour ne parler que de ça. Parce que le temps nous est très limité.
Alors, Bob Ntumba, chairman de Tigo, et vous qui êtes président des opérateurs privés de télécommunications en Afrique, apparemment, vous ne respectez pas votre cahier de charge.
Je vais y aller par chronologie. D'abord, l'ami Laurent Ntumba a essayé de faire une argumentation sur la bonne foi, en disant non, il ne faut pas quitter la table de négociation. Donc, vous savez, la bonne foi peut friser la naïveté. Si celui qui est devant vous a un cahier de revendication, un agenda caché, et que vous en avez la preuve, ce n'est pas en prêchant le vrai, en faisant un discours d'honnêteté, que vous allez le convertir à votre religion. Hein? Donc ne soyons pas à ce point porteurs de bonne foi. Quant à ce qu'a dit le directeur de cabinet, à savoir que il y avait un problème de concertation préalable, qu'il y a un problème d'exécution, de mauvaise exécution des licences. Mais ça, d'abord, le premier point, la concertation préalable. Je vais vous rappeler que si ces états généraux ont été convoqués, c'est parce que nous, opérateurs privés, depuis 5 ans, nous combattons la loi qui existe actuellement. Parce que quand cette loi a été créée, nous avons été floués par l'administration. Ils nous avaient fait encore un simulacre de consultation en 2002. Et quand ils sont allés présenter la mouture de la loi au Parlement, il n'y avait rien de ce que nous, opérateurs, qui sommes sur le terrain, avons recommandé pour que l'industrie fonctionne de façon harmonieuse. Et nous leur avons dit, dès le premier jour, nous ne voulons pas être, pour une deuxième fois, les dindons de la face. On ne veut pas servir de marche-pied pour faire passer les idées de l'administration. Donc, il y a eu concertation. Et dans ces concertations, il y a eu 3 phases. Et ces 3 phases sont écrites même de la main du ministre. Il fallait d'abord travailler en aparté, chacun, première phase. Deuxième phase, il fallait faire une concertation commune. Et les états généraux ne constituaient que la troisième phase des travaux. Quand nous sommes arrivés au centre Thérésianum, ils nous ont dit que non, comme on est pressé et qu'il n'y a pas assez d'argent, on passe directement à la troisième phase, avec un contenu des états généraux élaboré de façon unilatérale par l'administration, avec une feuille de route de la seule administration. Vous voyez, la mauvaise foi est telle qu'on ne peut pas plaider la bonne foi au risque de tomber dans la naïveté. C'est pourquoi nous nous sommes retirés, parce que nous ne voulons pas, conscients que l'histoire nous donnera raison. Il y a 5 ans, nous avons été floués, nous avons combattu cette loi, et cette convocation des états généraux, c'est notre victoire. C'est parce que nous avons dit, et nous continuons à dire, que la loi actuelle est mauvaise, qu'on a convoqué les états généraux. Alors, si on convoque les états généraux, le premier souci, c'est de redresser le cadre institutionnel et pas parler des licences mal exécutées. Ça, ce sont des déviations parce que ces problèmes particuliers de lecture des licences d'un opérateur à un autre qui ne sont même pas uniformisés, ce n'est pas ça la matière des états généraux. Les états généraux, ce n'est qu'une réflexion approfondie sur l'industrie pour réorienter le train de l'industrie vers un cap nouveau en restructurant fondamentalement. Ce n'est pas pour aller parler des cas particuliers, tel fait la téléphonie IP ou ne la fait pas. C'est pas ça la matière des états généraux.
Merci beaucoup, Bob Ntumba. États généraux sur la télécommunication, controverse entre le gouvernement et les opérateurs privés de téléphonie cellulaire. Le ministre de Poste, Téléphone et Télécommunication reproche à ses opérateurs privés de ne pas répondre aux attentes de l'État congolais. Les opérateurs privés, eux, disent le contraire. Qu'est-ce qui divise réellement les deux parties? Comment y remédier? Nous poursuivons cette émission avec nos invités, Bob Ntumba, président des opérateurs privés de télécommunication au sein de la Fédération des entreprises du Congo. Nous avons aussi Jeannot Bimola, directeur de cabinet adjoint du ministre de PTT, ainsi que Laurent Ntumba, responsable de la société Microcom, dans un instant pour la deuxième partie de cette émission.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099 8 999 222.
Pour remédier à la controverse entre le gouvernement et les opérateurs privés de la téléphonie cellulaire, l'administrateur directeur financier de l'Office congolais de postes et télécommunications, OCPT, souhaite que le gouvernement congolais puisse faire appliquer les lois qui régissent ce secteur en RDC, car selon Gilbert Mouhila, cette loi n'est pas encore d'application. L'ADF de l'OCPT, Gilbert Mouhila, joint par Guy Roger Nyampala.
Les opérateurs, quels qu'ils soient, sont là pour appliquer les lois. Ils doivent agir de façon légale. Et dès l'instant où le gouvernement constate qu'il y a dérapage, la loi ou les lois prévoient également la façon de remédier à ce genre de situation. Ce ne sont pas des solutions qui doivent intervenir de façon normale, mais les solutions sont à trouver de façon normative. Même les États généraux qu'on est en train de tenir, ou se sont tenus, et qui malheureusement ont connu un flop. Mais ces États généraux, c'est pour aller revisiter la loi. Mais cette loi qui n'a même pas encore connu un début d'exécution, comment vous allez la revisiter? Pour modifier quoi? Parce qu'il faut d'abord appliquer. Et si on constate qu'il y a des couacs dans l'application, en ce moment-là, on peut se retrouver pour modifier. L'application effective, nous ne l'avons pas encore constatée. Et on va se réunir pour modifier quoi. Il est tout à fait normal qu'il y ait justement ces divergences de vues.
Monsieur Labert, vous faites allusion à quelle loi? Parce que finalement, les opérateurs des téléphonies cellulaires continuent à fonctionner, ils payent des licences, ils donnent de l'argent au gouvernement. Donc il y a des textes qui régissent pratiquement ce secteur.
Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, l'État congolais n'a pas le moyen de sa politique. Ce qui est payé par les opérateurs privés, c'est juste un forfait qui est payé. Donc l'État n'a pas son argent et l'État congolais ne reçoit pratiquement rien. Dès que la loi va être appliquée, s'il y a des malentendus, s'il y a des zones d'ombre, on ne peut recourir qu'à la loi pour trouver des solutions.
Alors, Laurent Toumba, vous êtes de la société Microcom. Vous pensez qu'il y a un problème de texte à appliquer?
Oui, je crois que le problème des textes, il y a unanimité qu'il y a lieu d'harmoniser les textes. Et harmoniser les textes ne peut se faire que autour d'une table avec les acteurs. Le gouvernement d'un côté, les exploitants de l'autre, de manière à voir qu'est-ce qu'il faudra corriger. Plusieurs points ont été soulevés. De notre point de vue, je reviens sur ce point, c'est pour moi les États généraux, c'est une occasion. Le président Bob vient de dire, bon, la bonne foi. Ok, mais le gouvernement, je pense à mon avis, tend la main, demande que les gens se réunissent. Je pense que s'il y a des divergences, ça peut être étalé dans ce cadre. D'ailleurs, je dirais, aujourd'hui, il y a des dissensions. Nous, qui sommes membres de l'APEC, nous n'avons pas été consultés sur le départ des opérateurs GSM. Et nous sommes restés pour suivre.
Là, vous parlez du départ des États généraux.
Des États généraux. Et nous sommes restés, et les travaux se sont poursuivis. Et je pense que ça a été dans une ambiance telle qu'on n'a pas limité ni les points à l'ordre du jour, et c'était ouvert. Alors, je voudrais résumer en disant, s'il y a problème, que ceux qui posent des problèmes expliquent quel est le problème, soit du côté du gouvernement, soit du côté des opérateurs GSM, puisqu'il s'agit d'eux en ce moment, et dans un débat tout à fait convivial pour les intérêts de tous, et surtout de la nation, qu'on trouve des solutions, c'est-à-dire harmoniser les textes qui sont ou qui ont été trouvés contradictoires.
Oui, mais puisque vous êtes resté, comme vous dites, vous êtes resté jusqu'à la fin des États généraux de ces travaux, donc, est-ce que le texte, la loi qui est appliquée actuellement, est-ce qu'elle pose problème?
Dans certains articles, oui. Et c'est l'objet des débats. Et ces États généraux ne sont pas, les travaux ne sont pas finis, ne sont pas terminés. Je pense qu'il y a encore du temps pour ceux qui ont des problèmes qui viennent les poser, parce que je ne vois pas un autre cadre. Ce ne sont pas les opérateurs aujourd'hui qui vont produire la loi pour la République. Je pense qu'il faut une concertation entre les opérateurs ainsi que les exploitants. Je pense, à mon avis, et convaincu que c'est la seule voie de sortie. Chacun pesant sur ses acquis, sur ses droits, nous allons arriver à des solutions. Chacun pourra relever toutes les contradictions qui sont dans la loi.
les discussions étant ouvertes, on trouvera des compromis et je pense que nous allons avancer. Ça, je pense, à mon avis, que c'est le seul moyen d'aller vers l'avant.
Alors, Jeannot, dis-moi là, directeur de cabinet adjoint du ministre des PTT, vous avez suivi notamment Bob Ntumba, patron de Tigo et président des opérateurs privés de télécommunications, la FEC, qui dit que la loi, elle est mauvaise, parce que selon, on a suivi aussi l'ADG de l'OCPP qui lui propose justement que la loi soit appliquée, parce que selon lui, cette loi n'est pas encore d'application. D'abord, est-ce que vous avez aussi l'impression que la loi en la matière n'est pas encore d'application? Est-ce que c'est votre avis?
Bon, il y a des choses à dire hein, sur la loi, mais surtout sur l'absence des mesures d'application. Mais la loi existante déjà. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle nous tenons les états généraux. Et à part cela, nous pouvons aller un peu plus loin pour pouvoir harmoniser toutes ces choses-là. Mais je vais revenir un peu sur ce qui a été dit ici par notre ami Bob, en parlant de la mauvaise foi. Et ça m'a un peu choqué d'entendre, de sa part, nous traiter de gens de mauvaise foi. Ils ont peut-être une idée fixe par rapport à ce qu'ils ont connu avant, je ne sais pas quel genre de négociations, d'accord, ils ont eu avec les gouvernements précédents, mais nous ne sommes pas ces gouvernements, nous sommes aujourd'hui un gouvernement issu des élections, c'est l'expression de la volonté populaire qui s'exprime, et nous avons à faire ce que nous avons jugé nécessaire de faire pour le bien de la nation, quand je parle de la nation, de la manière globale, les investisseurs, privés, publics, ainsi que le peuple congolais en général. Donc, nous avons suivi des étapes qu'il a énumérées ici, et je pense qu'ils ont été ceux qui ont dit qu'une étape de travaux préparatoires n'était pas nécessaire à leurs yeux. Donc, ils ont volontairement décidé de ne pas y faire part. Et lorsque nous sommes allés à Terrazanium, nous avons eu 3 jours encore, les états où nous avons préparé ces états généraux. Et après ces 3 jours, nous avons eu une ouverture solennelle où tout le monde est venu, où nous sommes subdivisés en commission. Et quand on parle des textes où nous avons choisi l'ordre du jour de manière unilatérale, je pense que je dispose avec moi ici une lettre qui a été signée par M. Bob qui est à côté de moi, dans laquelle il nous faisait part du sujet qu'il voulait qu'on traite sur ces états généraux. Donc, je ne comprends pas, lorsqu'aujourd'hui on nous dit, voilà, on a fait des manières unilatérales, je me demande qui c'est notre temps.
Mais comment remédier justement, parce que vous n'allez pas rester chacun sur sa position, voilà. Là, on doit trouver une solution.
Là aussi, j'aimerais que les choses soient claires, que ce soit bien clair. Nous avons eu depuis les débuts une politique de la main tendue. Et cette politique-là, nous l'avons menée, mais il ne faut pas que les gens pensent que le fait que nous avons cette politique de la main tendue veut dire qu'exprime une faiblesse de la part du gouvernement. Pas du tout. Nous n'allons pas renoncer, nous n'allons pas du tout renoncer à notre pouvoir régalien de réglementation. Et ça, c'est notre pouvoir de réglementation. Nous n'allons pas y renoncer à cause simplement des états d'âme de certaines personnes. Nous l'avons, le responsable du Microcom l'a souligné, tous les partenaires privés ne sont pas partis. Il y a une minorité qui est partie. Et c'est l'État qui fait la loi. Et la loi est applicable à tous, petits ou grands.
Oui, mais la loi est jugée mauvaise par...
Justement, mais si la loi est jugée mauvaise, que les gens viennent pour qu'ils nous disent où est-ce qu'ils trouvent que la loi est mauvaise. Et nous avons ouvert les débats là-dessus. Donc, si vous n'êtes pas, vous criez au loup et vous ne voulez pas qu'on puisse changer, arracher les canines du loup, eh bien, il va falloir qu'à un moment, qu'on nous dise qu'est-ce qu'on veut. Alors, nous avons eu l'habitude d'évoluer dans un état de non-droit. Et aujourd'hui, nous sommes en train de on ne peut pas accuser l'État d'avoir des mauvaises lois et puis en même temps l'accuser de vouloir améliorer les lois.
Alors, Bob Ntumba, la loi, vous avez dit qu'elle est mauvaise, mais comment pensez-vous l'améliorer si déjà vous devez quitter les états généraux? Vous allez l'améliorer comment?
Nous allons l'améliorer de façon précise, et cette façon a été énumérée par écrit. Ça fait 5 ans que nous avons décortiqué cette loi et nous en avons montré les faiblesses, les incohérences, les contradictions et les anachronismes.
Est-ce qu'on peut en avoir une idée, les auditeurs?
Ah voilà, une idée précise. Oui. Cette loi qui a institué, qui a créé l'autorité de régulation, a donné l'essence à un mort-né. C'est-à-dire, il faut que vous me compreniez, avant le régulateur aujourd'hui, c'est le ministère des PTT, par son secrétariat général, qui exerçait les fonctions de régulation. Il était question que le ministère crée un organe indépendant de lui, non pas parce qu'ils ont innové. Cela se fait dans le monde entier depuis 3 décennies. Nous en sommes même les derniers à prendre un train qui est en marche.
Malheureusement, le ministère a créé le régulateur tout en se faisant lui aussi co-régulateur. Vous comprenez? Ça sont des incohérences structurelles. On n'est pas ici pour parler de licence ou mal appliquée. Non, la loi est fondamentalement mal structurée. C'est ainsi que vous allez voir qu'il y a des échanges de correspondance injurieuses entre le ministère et le régulateur. Chacun annule les décisions de l'autre parce qu'on n'a pas défini le profil et les compétences du régulateur. Et le régulateur, c'est la pièce maîtresse de notre industrie.
Qui est l'ARPT aujourd'hui.
À ce point vrai que nous, opérateurs privés, c'est nous qui avons donné de notre propre initiative les moyens de fonctionnement à l'autorité de régulation. Les 5 cents qu'ils perçoivent sur les communications internationales entrantes, c'est un cadeau des opérateurs parce que nous avons besoin d'un régulateur indépendant efficace. Si les autres fournisseurs d'accès à Internet sont restés dans la salle, c'est parce qu'ils ne contribuent pas à cette caisse qui fait vivre la régulation. Ils ne sont pas concernés par le cœur du problème. Et ce cœur du problème, c'est nous, opérateurs GSM, qui le vivons. Et je rappelle que c'est nous qui sommes créateurs d'emplois, c'est nous qui contribuons à la richesse de ce pays par notre rapport au PIB, c'est nous qui avons l'expertise sectorielle. Et on ne peut pas tenir les états généraux des télécommunications sans ceux qui ont l'expertise exclusive.
Comment faire maintenant pour
comment
que
faire
vous soyez ensemble?
Comment faire pour que nous soyons ensemble? Contrairement à ce qu'a dit l'ami Jeannot, je m'excuse de le contredire, j'y reviens. On avait dit qu'il y aura 3 étapes. Concertation, isolée, en aparté. Les 3 jours dont ils parlent, qu'ils ont passé à Terre-Jeannot, ils n'étaient que eux, administration. On avait bien dit, par écrit, il y a un mémo sur ça, sur lequel même la lettre du ministre est revenue, que la deuxième concertation pour définir le contenu, l'objet des états généraux, devait se faire entre partenaires.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que d'un côté l'administration, d'un côté nous, opérateurs privés, on devait fixer ensemble l'objet des états généraux. Les états généraux ne sont pas là pour examiner des problèmes de gestion courante. Ils nous ont ramené, si vous voyez la liste qui est énumérée par le ministre, elle ne renferme que des problèmes de gestion courante et normale. Les états généraux, c'est une remise en question. S'il n'y a pas remise en question, il n'y a pas états généraux. Il y a administration ordinaire. Ce sont des problèmes d'administration ordinaire sous lesquels on a voulu nous entraîner. Et nous avons dit, niette, vous n'avez pas besoin de notre présence pour gérer l'administration des PTT. Et nous nous sommes retirés. Si vous voulez faire de la gestion ordinaire, faites-le sans nous, parce que vous avez l'impérium. Mais exercez-le. Jusqu'ici, on a travaillé dans un cadre institutionnel que nous nous disons hostile, et nous avons fait les affaires dans ce cadre hostile, et nous le disons parce que nous vivons tous les jours ces contradictions. Et c'est ainsi que nous avons mené campagne pendant 5 ans pour qu'on tienne ces états généraux. Et il ne faudrait pas que ceux qui ont le pouvoir de l'organiser croient que parce qu'ils ont ce pouvoir de l'organiser, ils vont imposer la feuille de route et le contenu. Alors, dans ce cas, nous disons, nous restons dehors et nous continuons à crier au loup. Parce que le loup existe depuis 5 ans. Si on veut que le loup survive, eh bien il va survivre. Nous avons l'habitude de travailler dans un cadre institutionnel hostile, on va continuer. Mais si les choses ne sont pas appelées à changer, de grâce que cela se fasse sans nous.
Oui, mais puisque il faut quand même qu'il y ait changement, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour que vous acceptiez finalement de vous retrouver avec ce gouvernement?
Eh bien, tout simplement, reprendre les concertations telles qu'elles ont été arrêtées de commun accord et par écrit. C'est-à-dire, concertation aparté, concertation commune et états généraux. La deuxième phase a été sautée, et quand je parle de mauvaise foi, vous pensez bien que je pèse mes mots. Parce que quand on saute une étape aussi importante que la finalisation du profil du contenu des états généraux, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'on ne veut pas aborder l'essentiel. On veut nous distraire avec de l'administration pure et simple. Nous, nous ne sommes pas administratifs, nous sommes des opérateurs. Et c'est nous qui rencontrons les vraies difficultés sur le terrain. C'est voilà pourquoi c'est nous qui avons demandé depuis 5 ans que se tiennent ces états généraux. Par contre, là, nous sommes la pièce maîtresse de ces états généraux parce que c'est nous qui les avions réclamés. L'administration n'a jamais dit clairement, vous le voyez vous-même dans nos discours, que la loi est mauvaise. Mais nous, nous le crions sous tous les toits. Et nous amenons les preuves que la loi est mauvaise. Une loi qui crée une autorité de régulation, mais qui ne lui en donne pas les moyens. Monsieur Laurent a dit que non, la discussion est libre là-bas. Moi, j'aimerais savoir, lui poser la question, qu'est-ce qu'ils ont dit sur l'indépendance de l'autorité de régulation?
Voilà.
Comme ça, je saurais s'ils ont, ils ont eu la parole libre.
Voilà. La question vous est adressée, Laurent Toumba, de Microcom.
Je voudrais apaiser le président Bob et indiquer que c'est vrai, là, j'entends que les opérateurs GSM sont les plus grands,
mais il faut aussi compter avec les autres qui sont petits et que les grands, il n'y a pas que les grands qui créent de l'emploi. Aussi, je voudrais dire une chose, rien qu'un exemple. La commission 4 chargée de régler les problèmes des taux de paiement ou des taxes. Dans cette commission, à l'unanimité...
Là, c'est l'une des commissions.
Oui, l'une des commissions. Dans cette commission, à l'unanimité, les personnes qui sont restées là-bas ont décidé de donner l'indépendance financière à la RPTC en proposant...
Donc, l'autorité de régulation.
Absolument. En proposant qu'il soit donné à cette autorité qui est la pièce maîtresse dans notre métier, il faut qu'il y ait un régulateur, qu'on lui donne le moyen de sa politique. Le contrôle, l'indépendance financière, de manière à lui donner le moyen de travailler. Ça, ça a été dit. Nous, nous sommes heureux et nous espérons que les opérateurs GSM, en participant à ces travaux, vont amener leur part. Parce que je reste constant en disant, sécher les discussions n'apportera rien. Plus on perd le temps à se disputer, les uns à les autres, je crois que c'est la nation qui perd quelque chose. Et je constate certainement qu'il doit, il doit y avoir pas de dessous de carte ou des dossiers qui ne sont pas mis en public, mais les lieux est indiqué que chacun dise, parce que je crois que même la presse était conviée à ces assises. Nous savons que les opérateurs GSM, c'est vrai, ils sont les plus puissants, mais alors qu'ils viennent à la table, qu'ils posent leurs problèmes clairement, et comme le dit le président Bob, par écrit, ça peut être publié sur la place publique, les gens vont débattre. Et en ce moment, on va arriver. C'est vrai qu'il y a des problèmes d'harmonisation de la loi. Tout le monde le reconnaît. Mais quelle est la solution? La solution, c'est revenir, chacun apportant sa pierre, et l'État va pouvoir décider et ça ira au Parlement.
Monsieur Zano, dis-moi là, directeur de cabinet du ministre des PTT, vous avez suivi Bob Ntumba, qui représente les opérateurs privés de télécommunications à la FEC. Pour lui, les conditions qu'il pose pour retourner ou reprendre les concertations avec le gouvernement, c'est que vous repreniez les concertations telles que vous étiez convenu. Est-ce que vous êtes prêt à le faire?
Vous savez, j'aimerais que les gens aient un petit minimum de respect pour la parole donnée ou les choses qui sont en train de se faire et pour les gens qui sont en train de le faire. Je pense que lorsqu'aujourd'hui on voit que nous avons commencé les états généraux, je crois que c'était le 6, si je ne me trompe pas. On était avec M. Bob, était là. Tous les partenaires qui nous ont quittés aujourd'hui étaient là. Le mardi, on était avec tout le monde. Le mercredi matin, tout le monde était là. Et du coup, vers le coup de 10h, enfin de 9h30, on se rend compte que nos opérateurs privés, une partie de nos opérateurs privés, se rendent compte que ce n'était pas ce pourquoi ils voulaient être là. C'est quand même étonnant. Moi personnellement, j'appellerais ça une amnésie collective. Parce qu'ils ont été même à la base de la répartition ou du changement même de nombre et des membres des commissions. Donc ça veut dire qu'ils ont été partie prenante de l'élaboration de tout ce qu'on devait faire. L'exemple pour Bantela, on vient de vous parler de mesures qui ont été prises en faveur des autorités de l'autorité des régulations. Ce qui a été la preuve que M. Bob voulait qu'on lui donne pour qu'il sache que les états généraux sont libres. Mais j'aimerais aussi rectifier quelque chose que j'ai entendu ici, que la FEC ou les opérateurs, non pas la FEC, que les opérateurs privés commencent à se prévaloir de la paternité des états généraux, je trouve que c'est un peu trop prétentieux de leur part. Je voulais simplement rappeler que lorsque le ministre est arrivé à son poste en tant que ministre de PTT, la première des choses qu'il a faites, c'était de tenir justement un état des lieux, de faire un état des lieux du secteur. Et après cet état des lieux, il a trouvé la nécessité justement d'harmoniser les textes et de prendre des mesures d'application. Et sur base de ces constats, il a été mis en place les états généraux.
Donc aujourd'hui, tout le monde savait que la loi était mauvaise. Mais c'est lui qui a eu l'initiative de payer les états généraux, en associant tout le monde. Et il sait qu'il n'était pas une obligation.
Ah. À vous entendre parler, Jeannot, dis-moi là, apparemment, vous n'êtes pas prêt, vous, en tant que gouvernement, vous n'êtes pas prêt à répondre à la préoccupation des opérateurs privés qui vous demandent de revenir aux concertations telles que vous l'étiez convenu, et comme ça vous avancez.
Écoutez, je parlais tout à l'heure du respect. Ces états généraux sont sous le patronage du président de la République. Donc vous imaginez qu'on ne ferait pas une chose pareille. Le président de la République ne s'impliquerait pas dans une chose qui a été mal faite, mal ficelée. Et l'inauguration, le mot d'ouverture a été prononcé par le représentant même du chef de l'État, le ministre auprès du chef de l'État qui est venu. Alors, je parlais du respect, et c'est pourquoi ce que je dis. Il va falloir qu'on ait du respect au moins que ce n'est plus que pour nos autorités qui nous gouvernent. Et ça, c'est quelque chose de très profond lorsqu'on voit les gens sortis de la salle et aller dire des choses contraires à ce qui se sont faites. Ça, je ne comprends pas. Donc, on doit avoir un minimum de respect, savoir tenir sa parole. Les gens étaient là, ils sont tout à fait d'accord, tout le monde a approuvé. Et le cadre est là, le cadre est fixé. Nous travaillons dans ce cadre-là, s'il n'y a que là que nous pouvons améliorer les conditions actuelles. Aujourd'hui, qu'on nous pose des conditions, qu'on reprenne tout. Et là, j'ai entendu qu'ils ont l'expertise exclusive. Bon, vous savez, on dit que au royaume des aveugles, le bon le roi. Hein, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont, ils pensent qu'ils ont l'exclusivité de la connaissance de la matière ou peut-être de la science infuse dans le secteur. Mais moi, je sais que c'est pas ce que moi je pense. Aujourd'hui, on est à un point, demain on sera à un autre point. On se rendra bien compte que ce qu'ils pensaient avoir, peut-être qu'ils ne l'avaient pas. Mais nous voulons simplement que la République profite de toutes ces choses-là. Nous sommes là pour que tout le monde, pour que le peuple congolais gagne, pour que le peuple congolais se retrouve, sans minimiser qui que ce soit, mais les gens doivent respecter la norme. C'est simplement ce qu'on veut.
Voilà. On va prendre quelques opinions des auditeurs que nous vous livrons rapidement. Ngoï de Kinshasa veut connaître comment l'argent perçu auprès des opérateurs de téléphonie cellulaire est utilisé et quel est le rôle de l'ARPTC, donc l'autorité de régulation de postes téléphoniques et communications dans tout ça. Pour Mourougui Nestor de Kisangani dans la province orientale, il soutient l'initiative du ministre car la RDC, dit-il, est l'un des pays où les sociétés de téléphonie cellulaire œuvrent en libertinage. Hervé Ndaï, depuis Toronto au Canada, demande s'il y a eu consultation préalable entre le gouvernement et les opérateurs de télécommunications pour la préparation des états généraux. Et que pense le gouvernement des dires des opérateurs de télécommunications qui soutiennent que leur contribution aux recettes de l'État est significative? Enfin, Franck Maki de Beni au Nord Kivu pense que l'État doit comprendre que ces sociétés de télécommunications contribuent au développement du pays. L'État doit plutôt les aider au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues. Bob Ntumba, on y va rapidement parce que là nous tendons déjà vers la fin de cette émission. Comment est-ce que vous réagissez à l'une ou l'autre des réactions de nos auditeurs? Par exemple, Mourougui Nestor de Kisangani, il pense que non, il donne raison au ministre parce que d'après lui, les téléphonies cellulaires dans vos sociétés œuvrent en libertinage.
Vous savez, c'est une opinion libre de quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la matière. Parce que, sachez que nous sommes contrôlés régulièrement par le ministère des Finances à travers ses régies financières. La DGRAB, la DGU nous contrôlent régulièrement. Et si on n'applique pas la loi, soyez certains qu'on serait sanctionnés. Et il n'appartient pas au ministère des PTT de faire un contrôle fiscal sur les opérateurs de télécommunications. Le ministère des PTT est tutelle technique et pas tutelle administrative. Mais pour revenir à ce qu'a dit notre ami Jeannot, je voudrais l'inviter à ne pas politiser le débat en faisant de l'intimidation. Tous les états généraux sont dû organisés sous l'égide du chef de l'État, ouverts par le ministre des PTT, mais ce n'est pas pour ça que la parole de l'administration est bible. Les états généraux, c'est une séance de réflexion. Et la seule économie dans une réflexion, c'est la préparation de la réflexion. Et si nous estimons qu'on écorne la réflexion, nous quittons la salle. Il ne faut pas venir dire non, vous savez, il faut respecter les institutions. On n'est pas là pour. On n'est pas sous un drapeau, hein. Quand on réfléchit, c'est le cerveau qui parle. Merci.
Voilà. Oui, rapidement, parce que là, vraiment, on est vers la fin de l'émission avec vous, Laurent Ntumba. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent, par exemple, que les télécommunications, ces sociétés, leur contribution est significative dans le trésor public?
Ben, c'est une vérité. C'est une vérité que aujourd'hui, les télécommunications est un secteur capital pour la République, un secteur de développement. Et je voudrais dire, puisqu'on arrive à la fin de ce débat, je voudrais insister sur le fait
qu'il faut qu'il y ait des concertations. J'insiste là-dessus parce que sans concertation, on n'aboutira pas à des résultats.
Voilà, on termine par vous, Jean-Noël Bimola, directeur de cabinet adjoint du ministre PTT. Que faire maintenant pour qu'il y ait justement ces concertations, pour qu'on retourne ou que vous retourniez aux concertations en quelques secondes?
Vous savez, nous bénéficions d'un période de break parce que là où nous étions, les locations étaient prévues jusqu'au samedi dernier. Donc, je pense que si tout va bien, nous pourrons avoir encore une disponibilité de salles ou des lieux pour ce jeudi. Donc, je crois toujours que cette période sera mise à contribution pour que les uns les autres réfléchissent, que tout le monde puisse revenir au bon sentiment dans l'intérêt du peuple congolais.
Merci beaucoup. C'est fini pour ce dialogue entre Congolais. Merci à tous de l'avoir suivi, à tous les invités et à toute l'équipe Innocent Olinga qui l'a préparé, Pamela Munazo qui était à la réalisation et Nini Kindou à la technique. Merci à tous encore une fois et bonne suite de programme sur Radio Capitale.